Bonjour chers fidèles d'IDFM, c'est Didier pour un nouveau rendez-vous compte où je reçois, comme chaque jeudi, une personnalité investie dans la vie culturelle ou associative. Et aujourd'hui, ce sera une rencontre qui aura lieu non dans nos studios d'Anguin, mais dans un tiers-lieu, rendez-vous compte. Bonjour Isabelle.
Bonjour Didier.
Isabelle Outrebon.
Oui, c'est ça.
Comment est-ce que vous pourriez vous présenter, ex-journaliste, militante associative, de quelle façon?
Alors, mon positionnement, c'est vrai que je suis une ex-journaliste, mais qui a été formée à la sociologie des organisations du travail, beaucoup de terrain. Et mon credo, aujourd'hui, c'est un petit peu l'approche que je vais avoir, c'est un peu... société réparée, nature retrouvée. C'est-à-dire que je me positionne aujourd'hui à vous comme un peu un médecin de campagne qui aurait besoin de prendre soin des habitants. Voilà.
C'est une très belle définition, un très beau programme. Alors justement, on parlait de tiers-lieu. Est-ce que vous pourriez donner une définition de tiers-lieu?
Alors, le tiers-lieu, c'est un mot alors, un peu barbare, hein, je vous avoue, qui a été inventé il y a un peu plus de 10 ans. Bon, la définition est un peu simpliste. Hein, on parle d'un lieu apprenant entre maison et travail. Donc, c'est vraiment très rudimentaire. Mais quand même un terme qui a été inventé par un sociologue américain, urbaniste, hein, qui s'appelle Ray Oldenburg, et qui est connu pour ses écrits sur l'importance de lieux. À l'époque, hein, il dit l'importance de lieux de rassemblement public informel pour le bon fonctionnement de la société civile, la démocratie et l'engagement civique. On sent déjà les prémices d'une société un peu nouvelle.
D'accord. Donc, en même temps, c'est plutôt centré, je dirais, à la campagne, on pourrait dire, dans des zones périurbaines peut-être.
Oui, alors les deux existent. En fait, le mouvement s'est quand même développé d'abord dans les villes. Et c'est vrai que les tiers-lieux entre ville et campagne n'ont rien à voir, en fait. Dans le premier cas, c'est un peu pour rompre l'isolement social dans les villes. Et dans le deuxième cas, c'est un peu aussi revitaliser les campagnes, les redynamiser et créer du lien social.
D'accord. Est-ce que vous pouvez faire rapidement un historique de cette notion, dans quelle région du monde c'est né, à quelle époque?
Alors moi, ce que je peux vous dresser, c'est peut-être un panorama des tiers-lieux. Je vous dis, c'est un phénomène assez récent. Et donc, on en compte aujourd'hui à peu près 3 500 sur le territoire national. C'est des chiffres qui sont vieux, bon, de 2 ans, dont un tiers en ruralité, donc c'est assez important. 62% sont hors métropole. Le chiffre d'affaires généré par ces lieux un peu inédits totalise 882 millions d'euros quand même et font travailler plus de 30 500 personnes. Donc c'est une activité, pour bien comprendre d'où elle vient, c'est une activité qui d'abord est englobée dans le secteur de l'ESS, hein, l'économie sociale et solidaire. Et puis aujourd'hui, elle est plus positionnée vers la transition écologique. Et donc, c'est pourquoi les plus gros tiers-lieux derrière sont subventionnés un peu par l'ADEME et ont des missions effectivement locales de sensibilisation un peu à la biodiversité, à l'alimentation, etc., etc. Donc ça, c'est le portrait un petit peu chiffre clé hein, de l'année 2003. Qu'est-ce que je peux vous dire? La feuille de route, hein, puisqu'on parle de l'ADEME.
Alors l'ADEME, qu'est-ce que c'est?
Oui.
L'ADEME.
L'ADEME, c'est l'instance qui s'occupe effectivement de la transition écologique en France. J'ai plus le sigle en tête, hein, mais elle est focus un peu sur les tiers-lieux en disant, écoutez, voilà les 6 piliers qui sont importants sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et travailler, puisqu'on est bien des chefs de projet, entre guillemets. Donc le premier, c'est la frugalité. Le second, c'est l'économie de partage. La troisième, c'est l'alimentation moins carbonée, hein, donc le mieux manger. Quatrième, c'est la réduction de la mobilité. C'est vivre le vélo, hein, en ville et à la campagne. Cinquième, c'est la biodiversité, le vivant. Et le dernier, c'est tout ce qui est low-tech, fours solaires, etc., etc. Donc, on sent bien, si vous voulez, que le tiers-lieu, il a comme une mission d'intérêt public. Il défriche un peu le terrain de la transition écologique avec, effectivement, les habitants, soit en ville, soit à la campagne, comme vous le disiez tout à l'heure.
Alors, vous m'aviez dit un petit peu hors antenne que c'est l'Australie qui avait lancé ce mouvement.
Oui, alors ce phénomène, il a été lancé il y a plus de 10 ans. Moi, je m'y suis intéressée un peu en tant que sociologue. Hein, j'ai vu arriver le phénomène sur Paris d'abord, chez les grands voisins. Et j'ai vu aussi que le phénomène venait donc de l'Australie. Oui, ce sont les premiers tiers-lieux ont été animés par des surfeurs en short avec des tongs. Et donc, on les a vus apparaître dans le 19e. Et ils investissaient des lieux improbables, un peu délaissés, des friches. Et là, ils faisaient des petits bars avec de la paillote. Et c'est la première image qu'on a eue des tiers-lieux. Et on s'est dit, ouais, super, c'est vraiment génial. La deuxième chose, si vous permettez, Didier, c'est que ça me vient en tête. Hein, c'est que moi, ce qui a fait déclic dans ma tête, c'est vraiment le film. Je pense que vos auditeurs, ne les connaissent peut-être. C'est le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. C'était un vrai déclic parce que pour la première fois, c'est un reportage international qui montre des gens qui font des choses ensemble, qui renaturent les villes, qui font des jardins partagés, qui fleurissent les pieds des arbres, qui embellissent en fait la ville pour donner une image un peu plus vitaminée de leurs conditions de vie. Voilà, donc l'Australie en premier. Et puis après, le film Demain, c'est un... C'est Robert Hodgkin, qui était un Anglais aussi, qui a inventé le phénomène des villes comestibles. Les villes où on peut manger des petits fruits rouges dans son propre quartier. Voilà l'origine.
D'accord, justement, l'Australie, le surf, la plage, les tongs. On va marquer une première pause musicale et on va se mettre un petit peu dans cette ambiance vacances, surf. Voilà. Et puis, on vous retrouve, Isabelle, dans quelques instants. Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous recevons aujourd'hui Madame Isabelle Trebon et qui nous dit tout sur les tiers-lieux. Alors, après cette petite parenthèse australienne, est-ce que vous êtes, on l'a bien un peu deviné, personnellement investi dans un tiers-lieu ou dans plusieurs tiers-lieux, lesquels et quelles expériences, conclusions vous en tirez?
Alors, ouais, question très intéressante parce qu'effectivement, je parle un peu en connaissance de cause. C'est vrai que je refais le lien avec l'Australie. Hein. Quand j'ai vu ça, je suis universitaire un peu dans mon esprit et je me suis dit que c'était un terrain d'exploration incroyable, le tiers-lieu. Donc, j'ai investigué dans Paris déjà en travaillant pour un ou deux tiers-lieux comme la Cité Fertile ou la Recyclerie ou les Grands Voisins. Donc, des lieux, pour bien comprendre, qui sont délaissés, des friches abandonnées. Et le temps d'être investi par des projets immobiliers, elles sont destinées à des associations d'urbanisme, de gens qui ont envie un peu de créer de nouveaux usages. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu un peu essayer de comprendre ce milieu, ce monde de l'intérieur, en participant aux activités qui étaient proposées. Donc ça date, hein, ça fait plus de 7 ans maintenant. Et du coup, petit à petit, j'ai étudié ce phénomène et je me suis dit, c'est bon, le mot est pas très sexy, hein, tiers lieu, mais on y reviendra. Mais je me suis dit, tiens, c'est vraiment un terrain de recherche incroyable. Donc j'ai commencé à monter mon projet un peu plus tard. C'était donc, j'ai pensé en 2018, hein, et j'ai commencé à investir un lieu, ben, tout simplement ma maison de famille, hein, qui est effectivement proche du Vexin, hein, puisque je suis basée à Ardricourt. Et cette maison, elle ne racontait plus rien, elle ne véhiculait plus aucune idée. Et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, je me suis dit, ben, je vais faire comme au grand voisin, je vais sortir tous les meubles, tout le mobilier de la maison. Je vais habiller le jardin, je vais créer de la permaculture, je m'étais formée à l'époque aussi. Je vais créer des cuisines de jardin pour faire de la cuisine, pour faire de la plonge, pour recevoir du monde à l'aide de palettes. Et puis j'ai un atelier avec une grande table de château récupéré où là je ferai des animations. Et je me suis vraiment dit, je base tout sur l'extérieur parce que je suis très... comment dire, imprégné par des valeurs un peu pédagogiques où je suis très fascinée par l'école du dehors. Mmh. Je me dis, comme au Danemark, ça serait chouette que les enfants puissent tout au long de l'année pratiquer des activités en dehors de la classe. Et donc, je me suis dit, ben, moi, je vais faire une école de la nature pour les grands. Et donc, mon jardin fait à peu près 1000 mètres carrés. Et donc, j'ai tout investi. Un jardin rond en permaculture avec des recettes qu'on crée et puis qu'on déguste après. Une serre pour faire pousser des jeunes plants, des établis, vous l'avez compris, pour cuisiner. Et puis une ressourcerie avec tout le matériel artistique pour peindre, dessiner, créer des carnets aussi. Puis une petite bergerie pour un petit peu, comment dire, faire du yoga ou se détendre. Et voilà, donc ça c'est mon projet que j'ai monté juste en 2021, après le Covid. Et là, c'est vrai que depuis Paris, j'avais à peu près 90 jeunes par mois qui m'envoyaient des messages en me disant « on viendrait bien chez vous parce qu'on est dans un stress total ». Et donc j'en ai accueilli, hein, j'ai accueilli des jeunes de Make Sense qui sont venus m'aider à peindre, à vernir, et on a fait le soir des débats de société incroyables. Et c'est vrai que le contexte s'y prêtait beaucoup. Donc voilà le début de l'histoire, hein, sur la maison, donc transformée en fabrique nature. Une petite école de la nature où je reçois des gens je reçois des gens surtout pour effectivement les écouter, des gens qui ont des projets un peu de se réinventer pour aller vers un mode de vie plus vertueux, moins consommateur d'énergie. Et donc c'est ça l'histoire de Fabrique Nature depuis 4 ans.
Alors effectivement, vous avez prononcé le mot. Finalement, le Covid a eu des effets négatifs, mais aussi des effets positifs finalement.
Ouais. Ah oui, oui, moi je trouve que ça a propulsé en fait surtout la nouvelle génération qui, pour la plupart, a été. Je pense aux étudiants. Hein, j'ai eu des étudiants d'AgroParisTech qui étaient un peu enfermés dans des 10-15 mètres carrés et qui, pour eux, ils ont pensé que c'était vraiment le début de du changement climatique. Ils ont vu ça comme ça, ils ont eu très peur. Ils ont commencé à faire des réserves et ils se sont dit, en tant que bons chercheurs, ben justement, on va expérimenter un mode de vie nouveau, c'est-à-dire où on ne sort plus, on consomme ce qu'on a sur place et puis on va essayer d'être résilient. Et donc, on était en lien, enfin moi, j'étais en lien avec eux et je vous parlais de Make Sense, hein, tout à l'heure. C'est vraiment la communauté des makers, des jeunes qui veulent faire et ils veulent être acteurs, hein, ils veulent plus être passifs. Et ils se préparent effectivement à voir arriver d'autres Covid, hein, comme cela, et de se dire, nous aujourd'hui, on veut expérimenter en fait un mode de vie où on est obligé de faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on consomme. Et donc, ils se disent, on n'est plus tout à fait comme avant.
Voilà. Voilà, on va marquer une deuxième pause musicale. Vous avez parlé de yoga dans votre bergerie, donc ça serait plutôt une musique de zénitude, c'est ça, qui va nous faire du bien, qui va nous détendre. Voilà. Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous continuons à recevoir Madame Isabelle Outrebon qui continue à nous parler des tiers-lieux qu'elle connaît parfaitement. Alors, est-ce que les tiers-lieux ont remplacé d'anciennes modalités de socialisation, par exemple dans les villages, les cafés ou alors les maisons de la culture, etc. Est-ce que les tiers-lieux sont les maisons de culture de demain?
Alors, sur le principe, oui. En théorie, oui. En pratique, moi, je suis aux portes du Vexin et c'est vrai qu'il y a... Le Vexin, c'est un territoire magnifique, hein, 100% nature. Mmh. Il y a eu certainement des petits cafés comme nous, à Hardricourt. Il paraît que, fut un temps, on en avait 70. Hein. Mmh. On n'en a plus que deux. Et je pense que ce qui a remplacé le café, ben c'est le café associatif, hein, qu'on voit un petit peu de temps à autre, mais qui n'est pas visible depuis la rue. Mmh. Non, le modèle qui prédomine dans les campagnes, c'est vraiment le modèle, la petite maison de la culture. Je vous ai parlé hors antenne de Joe Spiegel, hein, qui est député ou sénateur aujourd'hui, qui a expérimenté dans son village en Alsace pendant deux mandatures une maison de la citoyenneté hors de la mairie, qui ressemblait à un café, mais qui n'en était pas un. Et il avait dit à ses habitants, écoutez, c'est pas à moi de diriger la politique de la ville, c'est vous qui allez élaborer un programme autour de vos propres besoins. Et dans ces propres besoins, donc je vous ai donné la référence du livre, effectivement, les habitants d'eux-mêmes ont équipé cette maison avec un petit café, avec un repère café, on appelle ça comme ça, avec une petite recyclerie pour réparer les objets du village. Ils ont fait un peu comme en Italie, hein, je vous parlais d'un phénomène de société très intéressant qui s'appelle le tourisme diffus. C'est-à-dire qu'en Italie, ils ont un système d'hébergement, comment dire, un petit peu, c'est pas de masse, mais c'est plutôt à la demande. Et dans les petits villages un peu reclus de l'Italie, la mairie est au courant de toutes les petites maisons qui pourraient rendre service aux uns et aux autres. Et de cette manière-là, ils peuvent effectivement héberger des touristes qui sont aux premières loges, hein, du village. Et c'est en ça que cette expérience est intéressante. Donc, pour terminer sur effectivement la maison de la citoyenneté, c'est un peu ce qu'on préfigurait il y a 5-6 ans, en fait. On s'était dit, le tiers-lieu, ça va être, et c'est d'actualité avant les municipales, c'est de se dire, effectivement, est-ce que le tiers-lieu n'est pas effectivement l'émanation de la maison de la citoyenneté demain, mais ça sous-entend qu'il faut que la mairie se remette en cause et on n'en est pas là. Donc, je pense que c'est un peu une vue de l'esprit. Ce qu'il est aujourd'hui, moi, je trouve que c'est un lieu d'animation territoriale, hein, au même titre que, justement, je vous parlais de mairie. Après, est-ce que ça peut devenir autre chose? On le souhaite. Hein, on souhaite être utile dans les territoires. On souhaite être en lien avec les entreprises, les collectivités locales. Moi, j'ai accueilli cette semaine CY Design de Saint-Germain-en-Laye. 11 étudiants ont planché sur ce que pourrait être Fabrique Nature en lien aussi avec les réseaux sociaux, hein, parce qu'évidemment aujourd'hui on travaille à distance. Donc moi j'essaie de mon côté, j'ai beaucoup travaillé avec le parc du Vexin, qui est extraordinaire, hein, c'est grâce à eux que le projet de tiers-lieu a été lancé juste aussi pendant le Covid. Et donc voilà, on est un peu encore en prospection, en prospective. Et la transition écologique, je pense, va nous relancer un petit peu et nous donner de nouvelles missions riches et intéressantes.
J'ai tout laissé dans mon bel appartement, un genre de loft du 11e arrondissement, pour m'en retourner à la terre. C'est une horrible fume plus que la ganja du jardin. Je fais du tai chi dans le champ de mon voisin. C'est un baba de 68 qui fait l'élevage des truies.
Ah, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous continuons à recevoir Madame Isabelle Outrebon qui continue à nous parler des tiers-lieux. Alors, vous avez évoqué à deux reprises, je crois, un site qui s'appelle Fabrique Nature, c'est ça ?
Oui, c'est le nom. Alors, effectivement, c'est le nom du tiers-lieu que j'ai monté ici. Donc, Fabrique avec un K, espace nature. L'idée, c'était de faire une petite fabrique de projets nature. Le mot fabrique, il y a 7-8 ans, était très à la mode. Il est un peu moins aujourd'hui. Aujourd'hui, on dirait la fabrique. Elle était destinée, elle est toujours, à ce qu'on appelle les makers. Je vous en ai parlé. Ce sont les personnes qui sont pas dans le faire, mais plutôt dans le dire, et qui ont du mal à agir et à se remettre en question et oser pratiquer effectivement une activité. Et donc ici, à Fabrique Nature, j'ai mis tout au point pour accueillir ces gens qui ont des projets, qui ont envie de monter justement des projets nouveaux, mais ils osent pas. Alors c'est pas l'aspect économique que je vais aborder avec eux, vous l'avez bien compris, hein, je suis pas gestionnaire, c'est plutôt l'innovation, et c'est plutôt les écouter, être bienveillant, leur poser les bonnes questions, et surtout les décapsuler, les mettre à l'aise, pour que, et je les ai reçus souvent en stage ici, en résidence, pour les mettre en confiance, pour qu'ils mettent la main à la pâte, et que d'eux-mêmes, ils se sentent à l'aise avec cette idée qu'ils peuvent faire par eux-mêmes. Et les Fab Labs, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais dans les villes, il y en a beaucoup. Et c'est un peu l'esprit d'un Fab Lab. C'est vraiment, vous rentrez dans un lieu, vous testez des petites machines faciles, des imprimantes à bois, laser, et vous cliquez sur un petit bouton et vous sortez un bel objet. L'idée, c'est vraiment mettre en confiance l'utilisateur final. Voilà.
Alors, d'après ce que j'ai vu sur le site que j'ai consulté, la nourriture aussi a un rôle important. Bien manger.
Oui, super. Oui, parce que en fait, quand on est dans la transition écologique, c'est-à-dire qu'on est en train d'imaginer la société de demain, à l'horizon 2050, c'est qu'on est sur des thèmes de la vie quotidienne, c'est-à-dire la nourriture, le prendre soin de soi et des autres. Il y a tout ce qui est récupération. Je vous parlais de low-tech. Hein. Comment fabriquer des fours solaires si demain on n'a plus d'électricité. En fait, c'est revenir à un monde un petit peu, meilleur pour moi, mais avec moins de moyens et de ressources. Le bien manger est très important. Alors, dans nos territoires, le Vexin, on est gâté. Hein. On a vraiment tout ce qu'il faut pour bien manger, mais c'est vrai qu'on revient sur des notions importantes de manger équilibré, de manger naturel. Je vous parlais de prendre soin de soi aussi. Et c'est vrai que les jeunes sont très attirés par ce qu'on appelle le care en anglais, hein, c'est-à-dire prendre soin de sa santé. On parle de santé mentale. Je vous parlais de la biodiversité aujourd'hui aussi, le vivant, l'étude du vivant. Aujourd'hui, on est beaucoup plus respectueux des animaux. Je réfléchis parce qu'il y a la liste est longue, hein, je vous l'énumérais tout à l'heure, il y a 6 piliers en fait. Il y a prendre plus souvent le vélo, alors dans les campagnes c'est encore un problème, on voit bien, mais en ville c'est très automatique. Donc c'est vrai que la problématique elle est vraiment entre ville et campagne, et moi en tant que sociologue, c'est vrai que c'est ce regard croisé qui m'intéresse, c'est vraiment comment les pratiques évoluent entre ville et campagne et comment même les étudiants qui sont venus ici avaient des projets en ville qu'ils ont pu tester à la campagne. Et je pense que nos tiers-lieux, et là je propose une autre solution, c'est effectivement nos tiers-lieux à la campagne peuvent servir de lieu pour héberger ces jeunes qui ont besoin d'expérimenter, de se représenter des solutions nouvelles.
Et les mâles vont faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose, c'est l'hymne de nos campagnes. mal, crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones.
Nous sommes toujours bien sûr IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où nous continuons à recevoir Madame Isabelle Outrebon qui continue à nous parler des tiers-lieux. D'accord, donc à vous entendre, vous êtes plutôt optimiste alors que la période est plutôt un peu désenchantée au niveau justement de l'écologie et de la transition écologique, quoi. Vous êtes optimiste.
Oui, alors c'est vrai que sur les médias, ils en parlent de manière très négative, mais je pense qu'ils ne sont pas... Ouais, déjà, ils ne sont pas sur le terrain, et je pense que sur le terrain, nous, les tiers-lieux, donc je fais partie du consortium A+, c'est mieux, c'est vrai qu'on est très actifs sur, sur tous ces aspects que je vous ai cités, et à la veille des élections, effectivement, municipales, on est aussi beaucoup sur Paris avec les collectifs parisiens pour voir, pour faire remonter un petit peu les besoins du territoire. Comment en ville aussi, on se consacre mieux à la nourriture alors qu'il n'y a pas de ferme urbaine ou très peu. Comment on peut articuler tout ça? Et c'est vrai que c'est des sujets qui montent énormément. Vraiment, je pense que cette élection municipale aura vraiment une coloration un peu différente par rapport aux autres années. Donc voilà.
Alors Isabelle, notre émission touche à sa fin. Comment est-ce qu'on peut vous contacter si on a envie de voir concrètement ce que c'est, si on a des projets, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter?
Alors c'est très simple. Je suis sur les réseaux sociaux, donc à distance. Je suis sur fabriquenature.fr. Donc j'ai le site où on peut déjà voir ce que je fais. Après, je suis sur LinkedIn et Instagram. Alors, sur Instagram, je suis aussi un petit peu, comme je vous ai compris, je suis un peu facilitatrice. Je parle beaucoup des expériences de terrain aussi qui ont lieu sur le Vexin. Je ne parle pas que de moi. Sur LinkedIn, j'annonce un petit peu aussi mon actualité, puis aussi celle du réseau A+, c'est mieux. J'ai mon portable aussi, qui est sur Internet. Je ne cache rien. Voilà. Et sinon, effectivement, je peux vous recevoir sur rendez-vous, vous montrer ce que j'ai fait, écouter vos projets et puis voir avec vous si on peut monter quelque chose ensemble.
Très bien. Écoutez, la pierre est lancée, si on veut, dans le jardin de nos auditeurs. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Bonne chance à tous ces projets, disons, alternatifs. On disait ça un petit peu avant, non?
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait.
Et puis, je pense qu'on vous retrouvera d'ici quelques temps pour faire un nouveau point. Voilà. Merci Isabelle.
Très bien, merci à vous.
À bientôt. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Ainsi se termine notre rendez-vous compte consacré cette semaine au tiers-lieu, présenté par Isabelle Outrebon. Un podcast à retrouver, bien entendu, sur le site d'IDFM. Et quant à moi, Didier, je donne rendez-vous à tous les auditeurs la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau numéro de rendez-vous compte sur IDFM, évidemment. Et en attendant, je vous retrouve également dimanche matin dans la matinale de Mehdi pour ma chronique Nec plus Ultra, consacrée aux expressions issues du latin et de la mythologie grecque. À bientôt.